Radio Okapi.
De l'humanitaire en début de cette édition, nous vous parlons de la situation précaire des populations de Nobili et Kamango dans le territoire de Beni. De retour de l'Ouganda comme terre d'asile, ces ménages estimés à 3000 vivent dehors et sans vivre ici en RDC. Vous aurez également dans ce journal assez de détails sur le programme de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État. Ce programme a été présenté ce week-end aux députés provinciaux pour qu'ils s'en approprient et nous vous en faisons un condensé dans cette édition. Sheila Romaine, coordinatrice au Kassai du bureau de terrain de coordination humanitaire en RDC, intervient en fin de cette édition comme invitée. Avec François Kadima, elle nous parle de l'évaluation de l'approche Nexus mise en marche dans la région après le départ de la MONUSCO. Fidèles auditeurs, merci de choisir Radio Okapi pour votre information proche de vous. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Au micro pour la présentation de ce journal, Billy Van Lutumba. Au Nord Kivu, plusieurs habitants de Nobili et Kamango dans le territoire de Beni vivent dans des conditions inhumaines depuis leur retour de l'Ouganda, où ils avaient fui les attaques des ADF. Des sources de la société civile locale ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme rapportent qu'environ 3000 ménages des retournés sont sans abri et manquent de nourriture et médicaments. La société civile plaide pour des actions humanitaires urgentes en faveur de ces nécessiteux. Marc Marofimbo pour des précisions.
Nos sources sur place renseignent que la plupart de ces retournés sont entassés dans la vallée de Nobili, près du pont Lamia qui donne accès à l'Ouganda voisin et d'autres sont à Lwanoli. La plupart d'entre eux passent nuit à la Belle Étoile, ajoutent les mêmes sources. L'organisation non gouvernementale Action pour la défense des droits de l'homme, ADDH, rapporte que des cas de décès ont été enregistrés parmi eux, notamment des enfants à la suite des mauvaises conditions de vie. Certaines organisations partenaires du Haut Commissariat pour les réfugiés procèdent déjà à l'identification de ces retournés en leur distribuant des bâches, des abris d'urgence. Cependant, les besoins sont encore énormes, indique David Mouazé, coordonnateur de l'ADDH. Les organisations de la société civile et celles de défense des droits de l'homme en chefferie de Watalinga attirent l'attention du gouvernement et des organisations humanitaires face à cette situation. Signalons, ces nombreuses familles s'étaient réfugiées en Ouganda à la suite de nombreuses attaques des ADF dans leur village. À leur retour, ils ont retrouvé la quasi-totalité de leurs habitations incendiées et des champs détruits. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, au moins 12 personnes ont été tuées le week-end dernier dans la localité de Rengeti, en territoire de Beni. C'était au cours de 3 attaques simultanées attribuées aux rebelles de l'ADF. Selon la société civile locale, ce bilan est encore provisoire car de nombreuses personnes ne répondent pas jusque-là à l'appel. En Ituri, l'armée affirme avoir récupéré 3 villages qui servaient de bastions aux rebelles ADF lors des combats dans la forêt proche d'Otmaber au sud d'Irumu. Le porte-parole des FRDC en Ituri indique que 12 rebelles ADF ont été tués, 6 autres capturés et 5 armes récupérées par les forces loyalistes. Le lieutenant Jules Ngongo ajoute que les opérations militaires se poursuivent pour démanteler ce groupe armé étranger et d'autres forces négatives qui sont actifs dans cette partie du territoire d'Irumu. Il est au micro d'Ezekiel Mouzalia.
C'est après les intenses combats que les forces armées ont eu l'ascendance sur l'ennemi. À cela s'ajoutent 12 éléments ADF neutralisés, 6 autres capturés et 5 armes de type AK-47 récupérées par les forces régulières. Pour galvaniser ces prouesses de votre armée sur les lignes de front, les gouverneurs militaires et commandants des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboya Kachamadjoni demande à toute la population d'aiguiser la collaboration et l'esprit patriotique. Il encourage tous les éléments de forces armées engagés sur le théâtre des opérations de poursuivre l'ennemi en intensifiant les opérations militaires pour détruire complètement les ennemis de la paix.
Signalons que ce bilan n'est pas encore confirmé par des sources indépendantes dans la zone. L'actualité nous ramène ici à Kinshasa. Durant 2 jours, les députés provinciaux ont bénéficié d'une mise à niveau et des informations importantes sur le contenu programmatique du projet de développement à la base des 145 territoires, de son coût, ses sources de financement ainsi que sur la volonté manifeste du gouvernement de la République de faire les choses dans une nouvelle approche de redevabilité. Les élus locaux ont également reçu des informations sur les investissements priorisés pour leurs provinces, territoires et secteurs respectifs. Les grandes lignes de ce programme initié par le chef de l'État dans ce papier de votre serviteur rendu par Fulbert Balolagué.
L'architecture de mise en œuvre de ce programme, a soutenu le Premier ministre clôturant le séminaire, sera renforcée par les différentes recommandations telles que formulées dans les rapports finaux de ces assises. Le programme prévoit principalement des projets d'investissement. Parmi eux, la réhabilitation, soit l'entretien de 38 936 km de route et 444 ouvrages d'art, 418 mini centrales solaires et 471 km d'éclairage public, 3071 forages et 447 sources d'eau aménagées. Sont également alignés 238 marchés modernes et 145 bâtiments administratifs dans les chefs-lieux des territoires et 636 bâtiments administratifs dans les chefs-lieux des secteurs. 1450 logements du staff dirigeant des territoires en raison des 10 dans chaque chef-lieu, 788 centres de santé et 1210 écoles à construire, soit à réhabiliter et à équiper. Dans les secteurs agricoles, 500 000 producteurs locaux sont à structurer, professionnalisés par filière porteuse à raison de 4 filières par territoire. 4 340 équipements agricoles de production, de traitement et de transformation à acquérir pour développer les champs collectifs de 75 hectares par filière par territoire, soit un total de 43 000 hectares pour les 145 territoires.
Notez que toujours selon le programme de 145 territoires, 500 000 tonnes d'intrants et de semences seront à distribuer aux producteurs et ménages locaux agricoles. Tout ceci pour un coût total de 1,660 milliards de dollars américains, à raison par principe d'équité territoriale d'une moyenne de 10 millions de dollars pour chaque territoire. Autre nouvelle, au Congo central, bientôt tous les médecins, pharmaciens et infirmiers non inscrits au tableau de ces différentes filières de l'ordre cesseront de prester dans les structures médicales. Docteur Sabin Ilunga Kalombo, médecin inspecteur provincial du Congo central qui fait cette annonce, dit attendre des instructions qui viendront de Kinshasa pour les mettre tous hors des structures médicales. L'objectif, selon ce dernier, est de mettre les malades à l'abri des charlatans qui pratiquent sous la casquette des personnels soignants. Docteur Sabin Ilunga Kalombo, médecin inspecteur provincial du Congo central, est au micro de Nana Plurish Mambu.
On ne peut pas utiliser un médecin qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des médecins. On ne peut pas utiliser un pharmacien qui n'est pas inscrit à l'ordre des pharmaciens. Et puis, l'ordre des infirmiers a été créé récemment. Mais déjà, incessamment, il y aura une interdiction sur l'utilisation du personnel infirmier qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Quand nous attendons l'instruction qui viendra du niveau central de Kinshasa. En temps, ils sont en train de travailler, mais ils doivent se préparer conséquemment en s'inscrivant à l'ordre des infirmiers. Donc, ça nous permet d'abord d'utiliser un personnel qui est reconnu. Donc, on ne peut pas utiliser les charlatans. N'importe qui peut se proclamer infirmier alors qu'il n'en a pas la qualité. Apparemment, les gens semblent dire qu'ils ont des difficultés en rapport avec les diplômes. On a facilité la chose, ils peuvent s'affilier avec l'attestation qui est délivrée par la 6e direction à Kinshasa.
État des lieux de l'enseignement primaire, secondaire et technique au Grand Équateur, cela a eu lieu ce dimanche à l'ISP Mbandaka à l'initiative du ministre de l'EPST Tony Mwaba. C'était principalement autour de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le chef de l'État. Le ministre qui est en mission d'itinérance dans les 10 provinces éducationnelles de la région a aussitôt institué une commission ad hoc chargée d'examiner en profondeur les différents problèmes soulevés et d'en proposer des solutions idoines. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Tous les acteurs centraux et provinciaux étaient à ce rendez-vous organisé par le professeur Tony Mwaba, ministre de l'EPST, mais aussi des députés nationaux du Grand Équateur. Ils ont déballé à cœur ouvert les faiblesses et les points forts de la gratuité telle qu'appliquée dans les 10 provinces éducationnelles qui comptent la région. Tous ont reconnu l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire. Cependant, les effets induits se sont plutôt érigés en défis à relever le plus vite pour sa pérennisation. Parmi les défis énormes, il y a l'insuffisance d'infrastructures scolaires et le non-paiement des nouvelles unités estimées à la moitié des personnels mis en service. Il y a aussi la politisation du secteur, le monnayage des services par les agents du SECOPE et de l'inspection, l'impunité, autant d'autres antivaleurs ont été décriées par les intervenants. En réaction, le ministre a recommandé la rigueur, la moralité et l'excellence à tous les acteurs et partenaires, lesquels doivent tourner le dos aux antivaleurs en vue du succès de la gratuité et du relèvement de la qualité de l'enseignement national. Il a aussi rassuré de la mécanisation de 74 000 nouvelles unités au mois d'avril prochain, ainsi que de la construction et équipement progressif des écoles en banc. Ce, en attendant les propositions de la commission ad hoc qu'il a instituée et qui doit dans 10 jours lui proposer des solutions idoines. Bondaka, Paul Chamalenge, la Radio Okapi.
Nord Kivu, l'initiative de la conférence internationale sur les volcans de Virunga à Goma montre un signal politique fort qui traduit l'intérêt des autorités de l'État pour une thématique qui touche directement la population de cette partie du pays. Ces déclarations est des docteurs François Kervin du département des sciences de la Terre et chef du service risques naturels et cartographie au Musée royal de l'Afrique centrale en Belgique. Il avoue collaborer avec l'Observatoire volcanologique de Goma depuis 15 ans. Il l'a dit au micro de Mathieu Ilunga Chamboui.
Je salue l'initiative parce que cela montre un signal politique fort qui traduit l'intérêt des plus hautes autorités de l'État pour une thématique qui touche directement la population de Goma et des environs. C'est une manière de faire le point sur ce qui se fait dans d'autres observatoires, notamment on a parlé de la Python de la Fournaise à La Réunion, que des experts internationaux viennent un petit peu témoigner de ce qui se fait ailleurs pour donner ici la mesure de ce qui est envisageable, de ce qu'on pourrait imaginer faire à l'avenir. On a entendu d'autres voix, la voix de la protection civile, la voix de la société civile, et je pense que c'est important, c'est intéressant pour les volcanologues. Et c'est une manière de faire un bilan sur ce qui a bien marché, sur ce qui a moins bien marché, et donner des pistes de réflexion pour l'avenir. Alors les données ne passent pas par la Belgique, les données passent par le Luxembourg. Depuis la station de mesure sur le terrain ici à Goma, via Luxembourg et retour à Goma, la durée de ce trajet, c'est de quelques secondes. C'est cette question de la trajectoire qui traduit une complexité des obstacles techniques. Pour que ce soit installé ici, si vous voulez, il faut rencontrer des contraintes techniques, mais également disposer de la stabilité d'un courant électrique permanent, d'une connexion Internet permanente, et en accord avec les autorités de l'Observatoire, qui peut évoluer vers une autre solution à l'avenir dès que ces obstacles seront résolus.
Dans la province du Sankuru, trois prêtres du diocèse de Tchoumbé ont été renvoyés par l'état clérical sur décision du Saint-Siège pour divers griefs non publiés par le diocèse. Dans une note d'information dont une copie est parvenue à Radio Capi, la chancellerie du diocèse annonce aux membres du presbytérium que les trois prêtres sont dispensés de toutes les obligations sacerdotales sans autre détail. Un prêtre déconcerné par le décret de renvoi affirme qu'il n'a jamais été jugé ni entendu autour des griefs portés à sa charge pour qu'il fournisse les moyens de défense. Il demande ainsi que le décret soit publié officiellement et que les concernés soient officiellement notifiés. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les trois prêtres renvoyés du diocèse de Tchoumbé sont les abbés Pascal Djongelo, Jean-Major Lohonga et Jean de Dieu Ndjadi. Dans une note d'information datée du 15 mars dernier, adressée aux membres du presbytérium et donc copiée parvenue à notre radio, le secrétaire chancelier dit être mandaté par l'évêque du diocèse de Tchoumbé, Nicolas Djomo, pour annoncer les contenus des décrets du pape de décharger les trois prêtres de leurs obligations sacerdotales. La chancellerie demande aux membres du presbytérium, dans la même lettre, de faire large diffusion de ces décrets d'une manière appropriée auprès des fidèles. Contacté, abbé Jean de Dieu Ndjadi, un prêtre parmi les concernés par la décision, donne ici sa réaction.
Si ce décret-là existe, je vous confirme qu'on ne m'a jamais jugé. On ne m'a jamais écouté, on ne m'a jamais entendu. Il n'y a jamais eu un procès. Vous comprenez que si vraiment ce décret-là existe, c'est encore de l'arbitraire.
D'après la chancellerie, la décision du Saint-Siège convertit ces prêtres en fidèles ordinaires et les autorise donc à nouer des relations, dont notamment les mariages. Esther Ndalafina Mbujimaï, Radio Okapi.
L'Expo 2020 Dubaï, arrivé hier dimanche à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, a visité le soir le pavillon de la République démocratique du Congo. L'objectif de cette visite était de se rassurer du bon fonctionnement du pavillon de la RDC à ce grand rendez-vous mondial des opportunités d'affaires. D'autres détails avec vous, Alain Rung.
Il s'est agi également de mettre au point l'organisation du Forum des affaires RDC Émirats Arabes Unis qui se tiendra ce lundi à la Chambre de commerce de Dubaï où la RDC est représentée par 9 membres du gouvernement et 50 hommes et femmes d'affaires. La Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï, l'hôte de l'événement, se dit déterminée à accompagner la RDC dans la mise en œuvre de son plan directeur d'industrialisation autour duquel des sessions B2B seront organisées avec plus de 100 investisseurs émiratis intéressés par la RDC. Il était aussi question de faire le suivi des préparatifs de la nuit de la RDC à Dubaï, prévue pour ce mardi, a déclaré le ministre de l'Industrie à l'issue de cette descente, tout en insistant sur la consolidation de la diplomatie économique qui va permettre à la RDC de saisir l'ensemble des opportunités que lui offrent les eaux. Signalons qu'au cours de cette visite, le commissaire de la RDC à cette expo a donné les différentes explications du déroulement des activités au stand et en dehors de l'expo.
Actualité internationale.
Le Malawi a lancé dimanche sa campagne nationale d'urgence de vaccination contre la polio après la détection de son premier cas en 30 ans et le premier en Afrique en 5 ans. Cette campagne de 4 phases vise à terme 2,9 millions d'enfants. Selon la représentante de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Malawi, Janet Kaita, la vaccination s'étendra à d'autres pays voisins du Malawi. Le Malawi a passé une commande d'environ 14 millions de doses de vaccins. Les analyses de laboratoire ont montré que la souche détectée est liée à une souche qui a circulé dans la province du Sindh au Pakistan. Le président portugais a clôturé dimanche sa visite de 3 jours au Mozambique. Avant de quitter Maputo, Marcelo Rebelo de Sousa s'est intéressé à la résolution du conflit dans la province mozambicaine de Cabo Delgado, une insécurité qui jalonne la stabilité de la région australe. Pour assurer du soutien de l'Union européenne et du Portugal à son pays hôte, le président portugais a visité 2 unités de la mission de formation militaire de l'UE à Chimoio dans la province de Manica et l'autre dans le district de Katembe dans la banlieue de Maputo. Rebelo de Sousa a souligné la nécessité pour le Mozambique de garantir la sécurité des populations et la victoire sur le terrorisme.
L'invité.
La coordinatrice au Kasaï du bureau de terrain du coordonnateur humanitaire en RDC est notre invitée. Sheila Romaine évalue les Nexus, cette approche qui a été mise en marche dans la région après le départ de la MONUSCO l'année dernière. Elle prend en compte l'humanitaire, le développement et la paix avec comme priorité entre autres la réduction de l'insécurité alimentaire et la malnutrition et l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Sheila Romaine s'entretient avec François Kadima.
Sheila Romaine, bonjour.
Bonjour.
L'approche Nexus a été envisagée suite à l'amélioration de la situation sécuritaire après les élections et le départ de la MONUSCO. Alors, quelle évaluation faites-vous de l'approche Nexus à ces jours dans la région du Kasaï?
Effectivement, le Nexus en est en plein mise en opérationnalisation en ces jours. Comme vous venez de le dire, en principe, l'approche Nexus a été décidé pour la RDC dans l'année 2019 et ça a été suivi par plusieurs ateliers sur le niveau national avant que on a décidé de prioriser 3 provinces en RDC pour l'opérationnalisation justement du Nexus et parmi ces provinces c'est le Kasaï central et le Kasaï. Donc ça c'est la raison pour laquelle effectivement je suis venue ici pour appuyer cet exercice. On est vraiment au plein milieu de la mise en œuvre. On a déjà tenu un grand atelier pour initier le processus l'année passée en avril. Ça s'est tenu ici à Kananga avec la grande participation de différents participants qui sont venus de tous les côtés du pays et surtout de Kinshasa. Et après, on a commencé de concrétiser l'approche Nexus ici au Kasaï central. On a commencé avec la première réunion, c'est ce qu'on appelle le NGP, le Nexus Group Provincial, qui est présidé par le gouverneur de la province. Et jusqu'à ces moments, on a eu 3 réunions de haut niveau. Donc voilà, je peux vraiment dire que on n'a pas tardé de le mettre en œuvre. Le Nexus, c'est une approche que demande la participation de plusieurs acteurs. C'est beaucoup de coordination qu'on fait ensemble et donc je pense qu'on est vraiment sur un très bon point actuellement.
Voilà, prenons donc les 3 aspects de Nexus, l'humanitaire, la paix, le développement. Qu'est-ce qui a déjà été fait dans la région?
Voilà, c'est très bien que vous mentionnez les 3 aspects clés du Nexus parce qu'on s'y réfère aussi très souvent triple Nexus. Donc voilà les 3 aspects que vous venez de mentionner. Au fait, parfois des difficultés de vraiment comprendre c'est quoi le Nexus, parce que le Nexus n'est pas un projet, c'est pas un programme et c'est pas un fonds non plus, c'est pas une façon de financer, mais c'est plutôt une nouvelle façon d'approcher les choses, une nouvelle façon de coordonner, de mieux coordonner tous ensemble. Et le but au fait du Nexus, c'est que il fallait, c'est une reconnaissance universelle qu'il faut diminuer les aides humanitaires pour ensemble avancer dans le développement en prenant en considération la cause profonde des conflits, c'est-à-dire la paix. Je pense en ça, on voit maintenant de la part des Nations Unies, par exemple, les agences qui sont bien fonctionnelles sur le niveau et de Kasaï et du Kasaï central. Donc ça, c'est déjà un bon indicateur.
Qui sont réellement les acteurs des mises en œuvre du Nexus?
Au fait, il y a 5 acteurs clés. C'est le gouvernement, Après, il y a les Nations Unies, il y a les ONGI, les grandes organisations non gouvernementales internationales, il y a la société civile, très important, local, parce qu'en fait, le nexus peut jamais fonctionner si c'est pas aussi approprié par les acteurs qui sont à côté, qui accompagnent les bénéficiaires dans les territoires. Dernier acteur très important sont les bailleurs.
Qu'est-ce qui reste à faire pour booster l'approche nexus?
En principe, je pense qu'on n'est qu'au début. Il faut vraiment nous assurer que toute cette coordination, tout ce travail qu'on a maintenant porté à Kananga va aussi descendre jusqu'au niveau des territoires. Donc, c'est-à-dire, maintenant, ça, ce qu'il nous faut, c'est de concrétiser, faire des descentes aussi sur le terrain, mais aussi de ici nous asseoir autour de cette table que je viens de dire pour comprendre quelle intervention existe déjà. Qu'est-ce qui a été fait déjà ici dans la province pour comprendre quels sont encore les besoins qui restent à être couverts.
Sheila Romain, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, voilà comment se referme cette édition de journal de ce soir sur Radio Okapi, journal préparé par Élisée Chikota, Alain Hirung, Pelekipe Lamondo et l'ensemble de toute la rédaction. Au nom de toute cette équipe, Billy Ivan Lutumba vous dit sincèrement merci pour votre attention soutenue.